Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous et merci d'être fidèles à Métropolez-vous. Vous l'aurez remarqué si vous écoutez régulièrement cette émission, on y emploie souvent des acronymes pour désigner divers documents émanant de la métropole, des plans en particulier. Il y a par exemple le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, ou le PCAET, le plan climat air énergie territorial, sans oublier le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Tout ça ressemble un peu à du jargon d'expert, mais il serait dommage de s'arrêter à cet aspect des choses, ces documents métropolitains ayant une importance capitale, chacun dans leur domaine respectif, pour l'avenir de notre territoire. L'un d'entre eux, le PLUIH, a été récemment soumis au vote du Conseil de la Métropole, c'était le 11 avril, et pour ceux, sans doute nombreux, qui ne le sauraient pas, le PLUIH, c'est le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Habitat, un document qui dessine ce que devrait être le visage de l'espace urbain et interurbain dans la métropole toulousaine pour les années futures. Nous allons nous pencher sur ces enjeux et objectifs lors de ce numéro consacré à la mise en application du PLUIH de Toulouse Métropole. Plusieurs élus métropolitains étaient présents il y a deux semaines à la présentation du PLUIH à la presse, parmi eux Annette Legnaud, adjointe au maire de Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme et des projets urbains. Je lui ai proposé de participer à cette émission et elle a eu la gentillesse d'accepter mon invitation, ce dont je la remercie. Bonjour madame la vice-présidente et bienvenue à vous aussi. Alors ce PLUIH, pour expliquer sa raison d'être et faire comprendre son importance à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ?
Alors, bonjour, le PLUIH est le petit dernier, c'est la nouveauté dans le domaine de l'urbanisme puisque tout le monde connaît le PLU qui est le plan local d'urbanisme ou les anciens POS, POS qui étaient des plans d'occupation des sols. Sur la métropole il y avait 31 PLU, 6 POS et nous avons remplacé tout cela par un PLUIH qui est un document d'urbanisme mais à l'échelle des 37 communes de la métropole. Et ce document est un outil qui définit la constructibilité, et le corollaire, c'est la préservation de l'espace agricole ou de l'espace naturel, et l'accueil des populations sur le territoire de la métropole. Nous avions un fil conducteur qui était la densité modérée, Jean-Luc Moudin a eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises, et cette densité modérée, c'était quoi ? C'est tout simplement de faire en sorte d'accompagner la croissance toulousaine, métropolitaine. Nous savons tous que nous avons une attractivité très importante. Nous savons tous qu'il y a une activité économique florissante. Nous savons donc tous que nous devons accueillir de nouvelles populations tous les ans dans des proportions importantes. Donc nous devons accueillir ces populations. Et pour cela, nous devons construire des logements. Nous devons également assurer la mixité sociale, puisque c'est un enjeu important. Et nous devons faire tout cela en préservant, malgré tout, l'espace agricole, les espaces naturels, de manière à ce que le cadre de vie ne soit pas impacté. Et tout cela est inclus dans un document de planification qui est le PLUIH.
Et qui devient du coup la référence absolue au niveau métropolitain, ça veut dire qu'il se substitue aux plans locaux d'urbanisme et aux plans d'occupation des sols des 37 communes de la métropole.
Absolument, il n'y aura plus ni poste, ni PLU. Et alors pour vous donner un exemple de la simplification que cela entraîne, c'est que si nous cumulons toutes les règles des PLU et des postes, il y a 3600 pages, 600 zonages différents, 400 secteurs différents. C'est un travail finalement très important pour tout ce qui est instruction. Nous avons souhaité mettre de la cohérence sur le territoire et nous avons souhaité simplifier. Et le PLUIH a comme objectif de simplifier les règles, d'homogénéiser les règles, non pas de gommer les différences entre les communes, surtout pas, mais de mettre de la cohérence dans le développement de l'ensemble de la métropole.
Alors, précision importante que vous avez faite au passage, il ne concerne pas que l'urbanisme et l'habitat, il y a d'autres dimensions qui sont prises en compte dedans.
Bien sûr, le PLUIH est un document intégrateur. C'est un document qui intègre toutes les politiques publiques. Politique publique de l'habitat, on l'a vu, c'est le H. Politique publique de la mobilité, on ne peut concevoir un développement urbain sans le rattacher à la mobilité, c'est essentiel, il faut rapprocher les habitants de leur lieu de travail et de leurs moyens de transport. L'économie, on rapproche les habitants de leur lieu de travail et de leur lieu de transport, donc par la mobilité et l'économie. Et puis surtout l'environnement, il ne faut absolument pas que le développement urbain se fasse au détriment de la qualité de vie qui est chère à Toulouse.
Et oui, parce qu'une des raisons de l'attractivité aussi de la métropole toulousaine, c'est justement cet environnement relativement préservé dans beaucoup de communes qui permet d'être très rapidement à la campagne tout en étant dans une grande ville, voilà, avec tous les équipements et les services qu'elle propose.
Dans la métropole, il y a Mondouzil, 250 habitants, et Toulouse qui en a plus de
470 000, bientôt 480 000. Absolument.
Mais je rajouterai une dimension que je n'ai pas citée, c'est le patrimoine. Il faut absolument préserver à la fois notre patrimoine et surtout l'identité. L'identité de chacun des territoires et l'identité toulousaine qui fait que notre ville, notre métropole est attractive et avec une qualité de vie intéressante, tout à fait.
Merci pour ces premières explications. Le PLUIH a donc été présenté à la presse le 10 avril. Elle a été votée le lendemain par le Conseil de Toulouse Métropole. L'urbanisme et l'habitat sont-ils encore au menu de l'actualité métropolitaine cette semaine? Nous allons savoir dans quelques instants, grâce à Corinne Saint-Félix et à son flash d'informations hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. La préservation du patrimoine est au cœur de l'actualité nationale depuis le dramatique incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Pour des raisons plus réjouissantes, elle est aussi à Toulouse. La place du Salin a été réaménagée.
Oui, la place a été pavée dans la continuité des autres aménagements réalisés dans le centre-ville par Johan Busquet, comme les places Saint-Pierre, Dorade, les rues des Lois ou encore Pargaminière et Romiguière. Les trottoirs ont été élargis, une nouvelle aire piétonne a été mise en place. 42 places de stationnement, dont 5 pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que 10 emplacements pour les motos sont désormais disponibles. 2 vélostations ont été conservées et 8 arbres supplémentaires ont été plantés en complément de l'existant. Une piste cyclable et un plateau ralentisseur pour réduire la vitesse de circulation ont été installés pour la sécurité des usagers. Une aire de jeu a été créée suite aux demandes des habitants lors de la phase de concertation. De nouveaux fauteuils permettent aussi aux usagers de faire une pause et de profiter de cette place dite apaisée et certainement embellie. Cerise sur le gâteau, le repositionnement de la statue Jacques Cujas restaurée et l'amélioration de l'éclairage public. Une petite beauté qui a coûté 7 millions d'euros pour l'aménagement de la place et 23 000 euros pour la restauration de la statue.
Un autre sujet malheureusement très actuel qui nécessite des mesures fortes. Plusieurs communes de la métropole renforcent leurs actions avec les dispositifs rappel à l'ordre et transactions du maire pour prévenir des faits de délinquance.
Oui, les maires de 23 communes ont signé avec le procureur de la République, Dominique Alzéari, les deux ou l'un des deux protocoles permettant la mise en œuvre des dispositifs rappel à l'ordre et transactions du maire, institués par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ces signatures font suite aux souhaits exprimés par certaines communes dans le cadre du Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance de Toulouse Métropole, de mettre en œuvre ces initiatives ainsi que la volonté du procureur de la République de développer ces deux dispositifs. Alors ces dispositifs rappel à l'ordre et transactions sont deux outils mis à la disposition des maires au titre de leur pouvoir de police permettant de prévenir les troubles à l'ordre public sur le territoire de leur commune et de renforcer leurs actions de prévention de la délinquance. Ces deux dispositifs exigent une coopération étroite entre les collectivités et l'autorité judiciaire en la personne du procureur de la République.
Pour finir, une nouvelle qui va réjouir les amoureux de la danse classique à Toulouse, le titre d'étoile décerné aux 4 premiers solistes du Ballet du Capitole.
Oui, le prochain spectacle du Ballet du Capitole est une création de Kader Belarbi, La Bête et la Belle, une réinterprétation du célèbre conte de Madame le Prince de Beaumont. Ce ballet signé du directeur de la danse du Théâtre du Capitole a fait son entrée au répertoire de la compagnie en octobre 2013 et sera redonné du 25 au 28 avril prochain au terme de la première représentation de La Bête et la Belle. Le jeudi 25 avril sera donc décerné le titre d'étoile aux 4 premiers solistes du Ballet du Capitole. Julie Charlet, Natalia de Frobertville, David Galstian et Ramiro Gomez-Samon. Kader Belarbi, directeur de la danse, a lui-même été nommé étoile du ballet de l'Opéra National de Paris en 1989. Le titre d'étoile vient couronner l'excellence de 4 premiers solistes du Ballet du Capitole. qui se classe parmi les grandes compagnies françaises et européennes, de prestigieuses récompenses qui profitent aussi au rayonnement de la métropole toulousaine, puisque le ballet, notamment par ses tournées, participe au rayonnement international du théâtre du Capitole.
Voilà, c'était le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix. Annette Léniaud, peut-être un mot sur le réaménagement de la place du Salin à Toulouse, un chantier que vous avez sans doute été amené à suivre de près, j'imagine.
Oui, bien sûr, ça fait partie des grands chantiers. Nous avons eu l'occasion de les énoncer et une promesse d'ailleurs de Jean-Luc Moudin de réaménager cette place qui est le départ du quart de Romain. Donc un lieu stratégique, un lieu intéressant de Toulouse. Oui, bien sûr, je l'ai suivi puisque je suis tous les projets de Joan Busquette. Et un projet qui a été largement concerté avec les populations et Julie Escudier. Il y a beaucoup, beaucoup participé. C'est un projet qui a recueilli la satisfaction, je crois, de tous les riverains puisqu'ils y ont très, très largement participé et qui participent de ce grand projet d'embellissement de Toulouse.
Nous allons maintenant poursuivre notre échange et entrer dans le détail de notre sujet du jour, la mise en application du PLUiH de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Suite de ce numéro de Métropole et vous avec notre invitée Annette Léniaud, adjointe au maire de Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme et des projets urbains, ce PLUiH devrait donc bientôt être mis en application dans l'ensemble des 37 communes de la métropole. Mais avant d'en arriver au document définitif, il y a eu un long processus de réflexion, de consultation et de décision qui a mené à l'élaboration du PLUiH tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, peut-être nous décrire les différentes étapes de ce processus ?
C'est un travail de co-construction, tout d'abord, puisque c'est un travail de co-construction avec l'ensemble des maires de la métropole, les 37 maires de la métropole se sont regroupés pour travailler sur ce projet.
Quand on dit les maires, ce sont aussi les conseils municipaux, peut-être, plus
c'est
largement.
D'abord les maires, moi j'ai travaillé avec tous les maires de la métropole, bien sûr, ensuite nous avons travaillé avec leurs adjoints à l'urbanisme, leurs services techniques pour ceux qui en avaient, mais au départ, au sein de la métropole, nous avons travaillé avec l'ensemble des maires de la métropole pour construire un projet. Le premier outil que nous avons, la première étape du PLUiH, c'est ce que l'on appelle encore en acronyme le PADD, qui est le projet politique des élus. Donc c'est un projet qui a été construit avec les 37 communes de la métropole pour aboutir à une vision du territoire qui ensuite s'est traduit en règlement et qui s'est traduit en outil dont on parlera peut-être, mais l'élément fondateur du PLUiH, c'est ce PADD qui est ce projet politique. Et ce projet politique, les éléments essentiels, c'est accompagner la croissance, je le disais tout à l'heure, mais pas de n'importe quelle façon, accueillir de nouvelles populations, mais pas de n'importe quelle façon, préserver la qualité de vie des nouveaux arrivants, mais sans dégrader la qualité de vie de ceux qui existe, c'est assurer une mobilité pour tous ces nouveaux arrivants et les populations toulousaines, c'est faire en sorte qu'il y ait de la cohésion sociale, c'est de renforcer les cœurs de quartier, c'est également assurer un développement harmonieux de l'économie, c'est préserver l'espace agricole. C'est important, ne pas favoriser l'étalement urbain, faire en sorte de limiter la construction sur des territoires. C'est tout cela qui constituait le projet urbain, c'est-à-dire le PADD. Alors, ce travail a déjà commencé sur Toulouse, hein, puisque sur Toulouse, nous avons élaboré un projet urbain. Et c'est à partir de ces analyses de projet urbain de territoire qui nous ont permis de nourrir toute notre réflexion qui a été élargie à l'ensemble de la métropole. Mais c'est une analyse du territoire qui a été conduite avec les élus, un diagnostic du territoire construit avec les élus, la définition de cœur de quartier, de cœur de ville, qui est important, la préservation de ces villages. Tout ceci a été co-construit pour arriver à une vision stratégique du territoire qui ensuite s'est déclinée en règles et en règlements.
Est-ce que, au-delà des maires, des conseils municipaux, des 37 communes de la métropole, il y a aussi des associations de quartier qui ont été concertées ? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des associations de défense du patrimoine ou des associations de préservation de l'environnement ?
Alors, vous parlez de concertation. Il y a eu une très large concertation sur le PLUiH puisque la concertation a été ouverte dès la prescription du document jusqu'à la clôture du document. Donc, tout le monde pouvait avoir accès, tout le monde pouvait s'exprimer. Nous avons aussi organisé des réunions publiques par secteur pour expliquer aux habitants ce qu'était un PLUiH. Mais à toutes les étapes, nous avons expliqué le diagnostic, nous avons expliqué les premières orientations, nous avons expliqué le PADD et ensuite nous avons expliqué quelles étaient les règles qui accompagnaient ce PADD. Donc, nous avons expliqué tout ça dans des réunions publiques. Mais sur la ville de Toulouse, par exemple, et les élus ont fait la même chose dans leur commune, sur la ville de Toulouse, nous avons par secteur qui regroupe plusieurs quartiers, nous avons expliqué aux Toulousains le diagnostic, nous avons expliqué aux Toulousains notre vision du territoire. Nous avons expliqué tout cela, nous l'avons partagé avec les associations de quartier, les comités de quartier, et ensuite, les techniciens sont allés expliquer comment cela se traduisait, comment la règle allait traduire ce qu'on leur avait expliqué. Donc tout ce travail a été fait avec les associations de quartier et les comités de quartier sur Toulouse, et les autres maires, des maires des 36 autres communes, se sont retournés vers leur population pour expliquer à l'échelle de la commune ce que nous avions fait également.
Il y a eu également une enquête publique.
L'enquête publique a eu lieu pendant un mois et demi, et pendant ce mois et demi, la population a pu s'exprimer sur des registres par Internet, en fait tous des registres dématérialisés, des registres papier. Le commissaire enquêteur se sont déplacés pour être à l'écoute des métropolitains qui se sont exprimés très très largement. Il y a eu plus de 2000 personnes qui se sont exprimées pour poser des questions ou revendiquer une constructibilité ou la suppression d'une contrainte sur leur terrain, et la commission d'enquête a analysé toutes ces demandes que nous avons aussi analysées, qui ont été répercutées dans les communes, qui ont analysé les différentes requêtes des habitants, et nous avons décidé soit d'y répondre, soit de ne pas y répondre parce que nous avions des arguments de cohérence sur l'ensemble du territoire qui faisaient qu'on ne répondait pas à toutes les requêtes, et ensuite la commission d'enquête a tranché, a donné un avis favorable à notre projet avec des réserves et des recommandations que nous avons levées.
Alors maintenant, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça, de toutes ces discussions, de toutes ces réunions? Quels axes principaux, quels grands enjeux ont été mis en avant?
Alors, je citerai l'un des premiers enjeux, c'est probablement le maintien du cadre de vie par toutes les trames vertes et bleues, par tous les corridors écologiques, toutes les continuités de biodiversité, puisqu'on se rend bien compte qu'à l'échelle de la ville, il y a un certain nombre de corridors qu'on a pu énoncer, mais qui se poursuivent, qui quelquefois sont interrompus. Donc notre objectif a été de recréer ces continuités, et par la règle, de fixer une non-constructibilité, par exemple, avec une définition spécifique du territoire, en zone naturelle par exemple, pour favoriser ces continuités, faire en sorte qu'elles deviennent continuités quand elles avaient été interrompues. Donc un travail très très important sur le terrain pour repérer tous ces corridors écologiques ou ces espaces de biodiversité. Et puis je crois que nous avons identifié près de 4000 espaces boisés à préserver, entre espaces boisés à préserver, espaces de bâtis protégés, enfin des notions de protection à la fois des espaces naturels et de patrimoine dans l'intérêt de tous, pour le bien de tous.
La préservation des espaces naturels, des corridors écologiques, vous l'avez dit, évidemment, est entrée en ligne de compte, mais il y a aussi des zones agricoles dans la métropole.
Nous avons également choisi un scénario de limitation de la consommation d'espaces agricoles ambitieux, puisque nous avions remarqué que depuis quelques années, il y avait un fléchissement dans la consommation des espaces agricoles, et nous sommes allés au-delà, puisque nous avons souhaité qu'il y ait 10% de moins encore de consommation d'espaces agricoles. Donc, une politique volontariste de limiter la consommation de l'espace agricole pour éviter que ces territoires, qui ont une valeur économique importante, ne soient menacés. Et nous avons souhaité également développer sur certains des territoires une agriculture périurbaine, une agriculture liée à la métropole, donc peut-être une agriculture maraîchère. Donc, nous avons également un souhait d'avoir une politique agricole, si vous voulez, adaptée à une métropole.
Donc, des grands enjeux ont été identifiés. Et puis à partir de là, il y a des objectifs qui ont été fixés. Alors, j'ai vu qu'il y avait 5 principaux thèmes qui se dégageaient. L'aménagement, la gestion des ressources naturelles, le développement économique, l'habitat et les mobilités. L'aménagement, on en a déjà parlé. Voilà. Quand on parle de gestion des ressources naturelles, on parle de quoi?
C'est l'ensemble. C'est à la fois la préservation de ce que j'évoquais, des corridors écologiques, la préservation de la qualité de l'espace naturel, avec une gestion de cet espace naturel. Regardez le plan Garonne, ça fait partie des grandes actions que l'on peut avoir sur d'autres territoires. C'est également l'économie de la consommation de l'espace agricole. Il y a peut-être une économie agricole à créer en lien avec justement les besoins de la métropole. Donc c'est tout cela qui constitue une bonne gestion des espaces naturels. Et puis, il y a un autre enjeu qui est la cohésion sociale, que vous n'avez pas évoqué.
Oui.
C'est cohésion sociale, c'est faire en sorte que les cœurs de quartier soient des cœurs vivants, faire en sorte que les villages soient toujours vivants, avec du commerce, des services.
Et que ce ne soit pas simplement des dortoirs.
Et que ça ne soit pas des dortoirs. Donc, c'est tout cela qui fait de la cohésion sociale. Il y a l'habitat, donc je pense qu'on va en parler, et les mobilités, puisque nous devons... Alors, les mobilités, c'est pas seulement du transports en commun, c'est aussi des pistes cyclables, c'est aussi des liaisons piétonnières. C'est tout cela que nous devons intégrer dans notre document d'urbanisme.
Alors justement, il y a trois objectifs qui me semblent intimement liés. Ce sont le développement économique, l'habitat et les mobilités. En termes d'habitat, comment vous avez évalué les besoins, puis ensuite comment vous avez réparti commune par commune? Bon, on sait qu'il va y avoir un essor démographique très important de la métropole toulousaine, de la population de la métropole toulousaine dans les années qui viennent. C'est déjà le cas aujourd'hui, ça va peut-être s'accentuer dans les 10 ou 15 ans à venir. Comment vous avez réparti tout ça? Parce que ça doit être difficile commune par commune. Tous les maires n'ont pas les mêmes objectifs. Certains ont peut-être envie de garder leur population telle qu'elle est, pour une question de qualité de vie, et d'autres, au contraire, ont envie de développer leur population.
Oui, souvent, les petits veulent devenir plus gros et les plus gros préfèrent rester modestes. Enfin, je caricature un peu en disant cela, mais nous sommes basés sur d'abord l'évolution des populations depuis les dernières années, mais également sur des données de l'INSEE qui nous renseignent beaucoup sur cette attractivité de Toulouse dont on parle. Et c'est vrai qu'on s'est basé sur un chiffre qui a été analysé d'accueil de population de 5 à 6 000 sur Toulouse et environ 8 à 10 000 sur la métropole. Et ça génère que des besoins en logement. Donc nous avons identifié le besoin en logement sur l'ensemble du territoire métropolitain à 7 000 logements par an. Et ces 7 000 logements par an, c'est le projet Habitat dont on parlait tout à l'heure qui traduit tout cela. Et ces 7 000 logements par an, nous avons décidé, parce que c'était le SCOT qui l'imposait également, puisque nous avons un document qui est encore au-dessus.
Oui, le schéma de cohérence territoriale qui va au-delà des limites de métropole.
Donc le SCOT et notre PLUH doit être compatible avec le SCOT. Donc le SCOT nous a suggéré de diviser par deux 50% d'accueil de population sur Toulouse, 50% sur le reste du territoire, la métropole, donc ce que nous avons validé. Ce qui fait que sur le territoire de Toulouse, nous nous sommes engagés à accueillir jusqu'à 3500 habitants et sur le reste du territoire par an, 3500 également. Alors sur Toulouse, on sait comment ça se passe. Sur le reste du territoire, comment cela a-t-il été réparti? Donc c'est pas, chaque commune n'a pas dit moi je prends. Non, nous avons fait une analyse foncière de chacun des territoires et c'est lié, c'est là que la mobilité intervient. Nous avons identifié par des critères quelles étaient les communes qui étaient en capacité d'accueillir un petit peu plus parce qu'elles avaient du transport en commun, parce qu'elles disposaient de foncier, parce qu'elles disposaient de capacités d'accueil dans de bonnes conditions des populations. Et nous avons classé les communes en fonction de ces critères-là. Bon, la première couronne, qui concerne une dizaine de communes, je crois, c'est réparti les 30% supplémentaires d'accueil de population. Si bien que ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la ville-centre plus la première couronne accueilleront 80% des 7000 logements par an. Et ainsi de suite. La deuxième couronne, qui n'a pas de transport en commun encore performant, on a considéré qu'elle pouvait accueillir 10% de la population. Et la dernière couronne, qui elle n'est pas en capacité d'accueillir beaucoup de monde parce qu'elle dispose de peu de transports en commun ou de mobilité, accueillerait également 10% de la population, mais elles sont beaucoup plus importantes. Et cela a donc donné, si on répartit par commune, et ça a été négocié avec chacune des communes, les 30% supplémentaires ont été négociés en fonction de la capacité de la commune par son foncier à accueillir ces populations. Et c'est comme ça qu'on a déterminé le nombre de logements par commune. Donc nous avons travaillé commune par commune à partir du foncier de chaque commune. Donc nous savons et nous avons même positionné, localisé des secteurs qui seraient en capacité d'accueillir de nouveaux logements. Donc c'est un travail de couture qui a été fait avec chacune des communes de la métropole.
Et est-ce que cette répartition a fait l'objet d'un large consensus ou est-ce qu'il a fallu faire quelques arbitrages tout de même?
Bon, il a fallu discuter parce qu'il y a des communes qui n'étaient pas en capacité d'accueillir ce que l'on souhaitait parce que les transports en commun n'étaient pas là dans l'immédiat. Donc on a différé l'accueil de population sur le territoire en fonction de cet accueil de transport. Il y a d'autres communes, bien sûr, qui veulent moins d'habitants parce que leur tissu urbain ne supporterait pas qu'il y en ait d'autres. Bon, mais on a discuté et on est arrivé à un accord de l'ensemble des communes puisque toutes les communes ont validé le PLUIH.
Alors une question que je me posais, une donnée importante, je pense qu'il a dû être pris en compte, c'est quid du trajet de la future troisième ligne de métro? Est-ce que ça a joué un rôle primordial, voire peut-être axial, dans la détermination du PLUIH?
Alors ça a été un élément déterminant dans le PADD. parce que dans la vision politique du territoire, on ne pouvait pas ne pas indiquer qu'il y aurait un équipement structurant qui relierait, puisque vous avez bien compris que faire en sorte que les populations soient plus près de leur lieu de travail et de leur lieu de transport est un élément fort de notre projet. Donc cette troisième ligne de métro, elle répond parfaitement à l'ensemble de ce critère, puisqu'elle relie deux grands lieux de production d'emploi, que sont d'un côté l'espace, ça va jusqu'à la Bège, hein, mais d'un côté l'espace, et de l'autre l'aéronautique, en passant par le centre-ville et la gare Matabiau. Ce qui fait que, ne serait-ce que cette ligne, un bon nombre de salariés sont ainsi rapprochés de leur lieu de travail. Donc, cette troisième ligne de métro est intégrée en tant qu'élément structurant de mobilité dans le PADD. Par contre, son tracé, lorsque nous avons travaillé sur le PADD, le tracé de la troisième ligne de métro était esquissé.
Nous savions d'où
ça partait, jusqu'où ça allait, et encore, nous ne savions pas très bien à cette époque-là d'où réellement il partait aussi. Puisque maintenant, c'est la Bège et que je vous parle de la métropole. Donc, à l'époque, nous n'avions pas ces éléments-là. Donc, cette troisième ligne de métro ne peut pas être intégrée sur un document qui fige à la parcelle. Donc, nous attendons effectivement la DUP, donc la déclaration d'utilité publique, qui, puisqu'il y aura une enquête publique sur cette troisième ligne de métro, et nous aurons le tracé exact, le positionnement des stations parfait que nous pourrons intégrer dans la PLUIH par une révision.
Voilà, ce qui veut dire que le PLUIH n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, évidemment, il peut être l'objet de réorientation en fonction de nouvelles données qui se font jour chaque année, notamment par exemple le trajet définitif de la troisième ligne de métro.
Le trajet définitif de la troisième ligne de métro sera intégré dans le PLUIH parce qu'il générera forcément, parler de densité modérée, bien évidemment on densifie un peu plus à proximité des stations de métro que lorsqu'on est dans un quartier comme le quartier de Saint-Simon qui n'a pas de station de métro. Donc on équilibrera en fonction de cela l'accueil des populations. Donc il y a un gros travail de projet urbain à l'échelle du corridor de la troisième ligne de métro qui sera intégré dans le PLUIH par une révision. Mais le PLUIH pourra aussi être modifié. Entre la modification et la révision, ce sont deux choses très différentes qui ne nécessitent pas les mêmes procédures administratives. La modification est beaucoup plus rapide et on modifie plus facilement un PLUIH qu'une révision. Mais la modification est déjà presque dans les clous puisque nous avons déjà des éléments. Le PLUIH est un document vivant. Il n'est pas encore finalement opposable que déjà nous pensons à des modifications qu'on pourrait lui apporter pour le rendre encore plus qualitatif.
Un document évolutif, donc le PLUIH, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce numéro, Annette Léniaud, et nous avoir donné tous ces détails, ces éclairages et ces précisions sur le contenu du PLUIH, le plan local d'urbanisme intercommunal Habitat de Toulouse Métropole. Sa mise en application sera donc prochainement lancée dans les 35 communes métropolitaines. Et comme je le disais au début de cette émission, le PLUIH est vraiment un document crucial pour l'avenir de notre territoire parce qu'il détermine ce que devrait être la configuration et la répartition de l'espace urbain dans les 10 ou 15 années à venir. Il détermine aussi les priorités en matière de préservation de l'environnement, des zones agricoles et en ce qui concerne le développement et l'harmonisation des mobilités, autant de sujets qui intéressent tous les citoyens que nous sommes. C'est pourquoi je vous invite vivement à consulter le PLUIH dans le détail en vous connectant au site de Toulouse Métropole www.toulouse-métropole.fr puis en consultant la catégorie projet. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri à la technique Christophe Aubry. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.